Aujourd'hui, bien nous célébrons, c'est le dimanche, mais en même temps, la dédicace du Latran. Cette dédicace du Latran nous rappelle, historiquement, eh bien, que le Latran était la première église. Elle fut offerte, qui officiellement a été ouverte dans l'Empire romain, alors que jusque-là, eh bien, c'est dans les maisons que les chrétiens célébraient la messe en cachette, comme en Chine. Et donc, il y a eu cette autorisation, grâce à Constantin, à sa conversion personnelle, et il a offert un domaine, le domaine du Latran, où il a fait construire la première basilique qui est devenue, eh bien, le cœur de la chrétienté, le cœur en tout cas de l'Église de Rome. Voilà l'histoire. L'Église, c'est un lieu extérieur, comme cette chapelle de Notre-Dame du Cross. Mais ce lieu extérieur, quand on y va, nous projette vers l'intérieur. Et l'intérieur de quoi? L'intérieur de notre âme, l'intérieur de notre cœur, là où Dieu se tient. Dieu se tient déjà dans cette chapelle sous forme sacramentelle, mais il se tient en chacun d'entre nous d'une manière bien plus, je dirais, vivante. Même si la présence sacramentelle est une présence vivante pour Jésus, mais pas pour nous, vous voyez. Nous, bon, un sacrement, ça reste quand même un morceau de pain, même si par la foi, nous savons qu'il est là. Tandis qu'en nous-mêmes, lorsque nous savons descendre en nous-mêmes, au fond de notre âme, là, nous le rencontrons d'une façon bien plus tangible. Donc cette première église offerte par Constantin à l'évêque de Rome, au pape, eh bien nous dit que maintenant Dieu peut habiter d'une façon visible au milieu des hommes, dans la paix, pas dans tous les pays, mais en tout cas ici en Occident où nous nous trouvons. Et qu'est-ce que, selon le prophète Ézéchiel, là, qui nous donne une merveilleuse vision du temple, il sort une source d'eau vive. Et cette eau, on la voit qui descend là par l'est et qui rejoint le Jourdain, lequel rejoint la mer morte. Et puis tout fleurit, tout revit au contact de cette eau. Les bestiaux, les poissons, les cultures, les arbres fruitiers, tout devient vivant. Et bien sûr des hommes par excellence. Cette eau vive, Jésus en a parlé dans l'évangile de Jean. Celui qui croit en moi, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Oui, car l'eau vive, c'est une image de l'Esprit Saint. D'une église qui n'est pas de pierre, mais qui, certes, est faite d'âmes spirituelles, mais aussi de ces édifices où nous pouvons trouver d'une manière extérieure Dieu. Comment se convertir si rien ne nous invite à n'attire notre regard? Des églises, il y en a partout en France, c'est merveilleux de voir ça, même dans le plus infime village. Ça nous rappelle ce qu'autrefois était la présence des chrétiens sur le territoire. Vous voyez, rien que cette chapelle rurale, le nombre de places qu'elle contient, on imagine tout de suite combien de personnes venaient régulièrement ici, en tout cas au moment des fêtes. L'Église doit être visible d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas condamner l'Église parce qu'elle est visible. Mais ça n'a rien à voir avec la visibilité dénaturée du temple de Jérusalem, celle que Jésus dénonce. Il faut revenir à Cana. Pourquoi revenons-nous à Cana? On est au début de l'évangile de Jean, l'épisode de la purification du temple se situe là dans les commencements, c'est au chapitre 2, c'est juste après le miracle du changement d'eau en vin de Cana. Cana, ça veut dire en hébreu, c'est un verbe, être fervent, avoir du zèle. Et justement, Jean cite cette référence au psaume 69, le zèle de ta maison me dévorera. À Cana, c'est Jésus qui donne ce vin nouveau, un vin délicieux, un vin qui procure, et celui qui le boit ne sait pas comment, mais une ferveur nouvelle, une joie nouvelle là dans son cœur, comme pour Ézéchiel, sous l'autel commence à couler cette eau vive. C'est le cœur, vous voyez, bien protégé, encore bien profond, mais ça ira jusque dans nos actions quotidiennes, jusqu'au Jourdain, jusqu'à la mer morte. Ça rejoindra eh bien, tous ceux avec qui nous sommes en relation. Oui, par la conversion, car tous les textes du début de l'évangile de Jean nous parlent de conversion, commence par ce don d'une ferveur, d'une joie nouvelle, de la vie nouvelle en un mot, même si c'est à la croix que Jésus donnera définitivement ce vin nouveau par son cœur transpercé. Ce vin nouveau, comme il est bon de s'en souvenir, d'en faire mémoire. Nous l'avons tous bu. Les premiers disciples dans l'évangile de Jean, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont à la recherche du Sauveur. À la recherche, eux aussi, sont dans la ferveur. Ils savent que le Messie est là, qu'il arrive, mais où est-il ? Ils le cherchent. Certains le trouvent près de Jean-Baptiste et le disent aux autres, et ça se communique comme ça. Il y a toute une ferveur là, dans les premiers textes, dans les premiers chapitres de l'évangile de Jean. Et la purification du temple, eh bien, c'est un acte de ferveur de la part du Christ, une ferveur religieuse. Alors, cette ferveur religieuse est à la fois joyeuse, comme le vin nouveau de Cana, parce que Jésus est heureux de voir que les hommes s'intéressent de nouveau à lui, de nouveau au Père. Et en même temps, elle est douloureuse, cette ferveur. Pourquoi ce zèle qui le pousse à purifier le temple? Parce qu'il le met directement en relation avec sa passion. Oui, détruisez ce temple, mais en 3 jours je le rebâtirai. C'est le temps qu'il faut pour Jésus, pour ressusciter d'entre les morts et nous donner la vie nouvelle. Et ça, c'est le prix à payer par Jésus. C'est le prix à payer aussi, d'une certaine façon pour chacun d'entre nous, bien moindre, mais réel aussi. Nous devons apprendre de la passion du Christ à remettre notre vie entre les mains du Père. Et ça, c'est mourir à soi-même, en tout cas au sens humain du terme. Le temple, c'est le lieu de l'adoration et de la présence divine. Voilà ce que c'était que le temple de Jérusalem. Et c'est toujours le cas pour nos églises. Pourquoi Jésus intervient-il ? Parce que dans l'adoration du temple, Jésus avait cessé d'occuper la première place, la place qui lui était due. Enfin, Jésus, Dieu, le Père, avait cessé d'être la préoccupation essentielle et des prêtres et des fidèles qui venaient. Tout le monde se perdait dans les choses secondaires, l'achat des bestiaux, l'organisation des sacrifices, etc., etc. Et on avait fini par faire du temple, comme dit Jésus, une maison de commerce, c'est-à-dire un temple qui est dirigé d'une façon humaine, dont la logique est humaine et qui ne parvient plus jusqu'à Dieu, une adoration qui ne monte plus jusqu'au ciel. Or, le temple était fait pour éduquer les croyants d'Israël à cette adoration véritable. Jésus parlera dans quelques chapitres à la Samaritaine d'un culte en esprit et en vérité. C'est plus dans ce temple de Jérusalem ni au mont Garizim, non, ce sera un culte intérieur. Et chaque âme devient un temple de l'Esprit Saint, un temple dédié à la Trinité. Il faut mettre Dieu à la première place. Alors comment ça se passe concrètement pour chacun d'entre nous, pour chaque homme en ce monde ? Ça veut dire qu'il ne faut pas aborder seulement les vérités religieuses sous un angle uniquement psychologique. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Est-ce que c'est compatible avec ce que je suis, avec ce à quoi j'aspire ? Enfin, voyez tout le truc. Non. Il faut accepter cette crucifixion dont parle le Seigneur. Être sur la croix, c'est-à-dire remettre notre vie entre les mains du Père. C'est-à-dire le dépassement du moi, le dépassement de l'ego, le dépassement du niveau psychologique. Et c'est à cette condition que le ciel s'ouvre, c'est à cette condition que notre adoration se réalise en esprit et en vérité. Voilà en quoi, cette ferveur, ce zèle qui pousse Jésus à purifier le temple de Jérusalem est à la fois une ferveur joyeuse, la ferveur de tous les convertis qui veulent remettre l'Église sur les rails quand on les écoute dans leur premier enthousiasme. Mais il faut, ça c'est un peu immature, ça ne suffit pas, il faut aussi cette douleur du cœur transpercé de Jésus qui restaure l'adoration véritable au prix de son propre sacrifice. On peut dire aussi que ce que Jésus répare dans le temple de Jérusalem, c'est pas seulement la maison de commerce, mais c'est aussi le sacerdoce. Parce que qui dit, c'était les prêtres qui étaient responsables du culte du temple. Alors il y a le temple lui-même, mais il y a quand même toute son organisation. Or, tout au long de l'histoire d'Israël, le sacerdoce a régressé. Il a décliné lentement, mais sûrement. Il y avait trois fonctions sacerdotales à l'origine, à l'époque de Moïse, quand ils sont entrés dans la terre promise, depuis le désert. Il y avait une dimension mystique, c'est-à-dire prophétique. On tirait les Ourim et les Thummim pour connaître, c'est-à-dire des sortes de dés sacrés, des pièces sacrées à double face. Et on répondait Dieu répondait par oui ou non quand on les lançait. Mais il fallait interpréter les choses, c'était pas simplement un jeu de hasard, bien évidemment. Les Ourim et les Thummim, ça nécessitait un esprit de prophétie, celui-là même que Dieu envoie aux 70 anciens pour épauler Moïse. Ça disparaît très rapidement dès l'époque de David, c'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est la première fonction sacerdotale qui disparaît, la dimension prophétique ou mystique, si vous préférez. La seconde, c'était être les gardiens de la parole de Dieu, la transmettre, la méditer et l'enseigner. Ça a duré un peu plus longtemps, mais avec bien beaucoup de faiblesse. Et finalement, après l'exil à Babylone, quelques siècles avant Jésus-Christ, les prêtres avaient cessé complètement de s'occuper de l'enseignement, de la révélation, à tel point que les Juifs ont créé les fameux scribes, les fameux interprètes de la loi, qui lisaient et enseignaient l'Écriture. Donc les prêtres s'étaient débarrassés de cette seconde fonction. Fondamentalement, on pourrait invoquer plein de motifs, de formation, de je ne sais pas quoi, mais fondamentalement, c'était un manque de zèle religieux, un manque de ferveur. Il manquait du vin nouveau de Cana. Et enfin, la troisième fonction sacerdotale, c'était le sacrifice, qui paradoxalement, à l'origine, n'était pas du tout réservé au clergé. Mais ils se l'étaient accaparé parce que c'était la dernière chose qui leur restait. Et même ça, Jésus trouve qu'ils le font très mal. Parce que les sacrifices ne renvoyaient plus à Dieu, mais seulement à ce système-là, commercial. On achetait dans le temple. On aurait pu très bien vendre ça à Jérusalem, ailleurs, hors du temple. Les gens auraient conduit leurs bestiaux qu'ils auraient acquis en dehors des murs du temple et l'adoration aurait été préservée. Non, ils avaient voulu s'accaparer tout le commerce sacré pour en tirer également les bénéfices, bien évidemment. Donc, le temple, c'est pas seulement les murs, c'est pas seulement les sacrements, c'est aussi ceux qui communiquent ces sacrements. Alors, maintenant qu'elle est visible, cette Église, demandons au Seigneur qu'il la maintienne debout et qu'il lui donne toujours, qu'il lui envoie non seulement l'Esprit Saint, bien sûr, mais des ministres qui soient capables de vivre de la ferveur, du zèle de Cana, de ce vin nouveau, de s'émerveiller de la présence de Dieu et de chanter à jamais ses louanges.